Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je m'appelle David Rosset, je suis l'un des pasteurs de cette communauté. Et puis, c'est un grand moment, je trouve, d'une vie chrétienne que de pouvoir vivre et fêter ensemble la Pentecôte. C'est ce que nous avons aussi de faire par cette louange qu'on a offerte à notre Seigneur en reconnaissance. Et puis, on peut aussi offrir notre écoute à notre Dieu en reconnaissance de tout ce qu'il fait dans nos vies et de son action par son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans ma vie, j'ai intitulé « Revisiter sa présence ». Parce que moi, je pense que quand on est croyant, le Saint-Esprit vit en nous. Ça, c'est la promesse qui nous est faite et c'est la réalité qui est là. Et ce n'est pas forcément toujours aussi impressionnant que le texte qu'on va lire ce matin, mais il est là avec nous et en nous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé il y a un petit moment de cela à Jérusalem, parce que c'est ça que nous fêtons ce matin. Alors, je vous invite à me suivre. Il s'est passé qu'ils étaient tous très étonnés et ne savaient pas quoi penser. Ils se disaient entre eux, « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Mais d'autres se moquent des croyants et ils disent, « Ceux-là, ils sont complètement ivres. » Alors, je ne sais pas si on vous a déjà dit que vous étiez complètement ivre à cause de l'action du Saint-Esprit dans vos vies. À qui c'est déjà arrivé? Merci Monique, quel courage, là aussi en haut, merci. Bravo d'avoir eu le courage de lever la main. Et puis, merci Seigneur d'avoir eu cette révélation. Ils sont tous très étonnés. La première réaction de ce qui s'est passé, c'est que Dieu, selon sa promesse, a envoyé le Saint-Esprit sur ceux qui étaient réunis dans une chambre haute à Jérusalem. Et ces personnes, ils ne sont pas restés dans la chambre haute, ils sont partis sur les rues de la ville, comme si nous on allait dans les rues de Nyon. Et il y a eu deux sortes de réactions. Une première réaction, c'est de mettre à distance, parce que finalement c'est trop gros pour être vrai. On ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas ce qui arrive. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va sur les choses qu'on connaît. On arrive à reconnaître quelqu'un qui est ivre, on arrive à reconnaître quelqu'un qui a trop bu, et on se dit, bon, ça doit être ça, tellement que le comportement est bizarre. Et une deuxième réaction, et puis c'est cette réaction que je nous invite à creuser comme croyants, c'est qu'ils ne savaient pas quoi penser. Qu'est-ce que ça signifie, ce déversement du Saint-Esprit sur la vie de ses disciples, sur la vie de ses hommes et de ses femmes? Qu'est-ce que ça signifie pour nous en tant qu'habitants de Jérusalem? Qu'est-ce que ça signifie pour nous en tant qu'habitants de Nyon et environ? Et là, il y a quelqu'un qui se lève dans la foule. C'est quelqu'un, c'est Pierre. C'est pas quelqu'un qui a eu un destin qui était hyper linéaire dans sa vie avec le Seigneur. Il a effectivement été appelé par Dieu. Il est sorti de son métier, il est sorti de sa famille pour suivre Jésus. Mais au moment où ça devenait un peu, je dirais, intense, le voilà qui décide, je ne sais pas si c'est vraiment une décision, en tout cas qui subit la pression, puis qui décide de dire, ce Jésus, je ne le connais pas. Ce Jésus, pour moi, c'est une histoire qui n'est plus la mienne. Et ce même Pierre est repris par Jésus de manière assez admirable. Il le relève en lui disant, tu m'as renié, c'est ok. Mais reste quand même avec moi, et puis c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Et avec toute cette expérience, ce vécu, c'est lui qui prend la parole le jour de la Pentecôte, ce qu'on appelle aussi le jour où l'église s'est fondée, la communauté chrétienne s'est fondée, et c'est lui qui donne ce discours où il explique à ceux qui sont étonnés ce qui a bien pu se passer et pourquoi il y a cette révélation qui tombe comme ça sur les disciples. Et c'est ce texte que nous allons lire ce matin, ce discours que nous allons réécouter ce matin. Et ce discours, on le trouve, si vous avez vos Bibles avec vous, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2. Et je vais partir du verset 14 pour aller jusqu'au verset 36. Alors Pierre, debout avec les 11 apôtres, se met à dire d'une voix forte, « Frères juifs, vous tous qui habitez à Jérusalem, vous devez comprendre ce qui se passe. Et écoutez bien ce que je vais dire. Ces gens, eh bien, ils ne sont pas ivres, comme vous le pensez. En effet, il est seulement 9 heures du matin. ce niveau-là, j'ai une petite anecdote. J'ai appris en venant sur la côte qu'on est le droit de prendre l'apéro une fois que les heures se comptaient en double chiffre. Donc là, ça joue, c'est bon. Mais ce que le prophète Joël a annoncé, cela arrive maintenant. Et voici ses paroles. Dieu a dit, « Dans les derniers jours, je donnerai mon esprit à tous. Vos fils et vos filles parleront de ma part. Je ferai voir des choses nouvelles à vos jeunes gens. J'enverrai des rêves à vos vieillards. Oui, en ces jours-là, je donnerai mon esprit à mes serviteurs et à mes servantes, et ils parleront de ma part. Je ferai des choses extraordinaires en haut dans le ciel et des choses étonnantes en bas sur la terre. Il y aura du sang, du feu et des nuages de fumée. Le soleil deviendra sombre et la lune sera rouge comme du sang. Ensuite, le jour du Seigneur viendra, ce jour grand et magnifique. Alors, tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Frères israélites, écoutez ce que je vais dire. Dieu a montré qui était Jésus de Nazareth. En effet, au milieu de vous, Dieu a fait par Jésus des miracles, des choses extraordinaires et étonnantes. Vous le savez bien. Cet homme, on vous l'a livré. Dieu n'était pas étonné, il savait ça d'avance et l'avait décidé. Vous avez supprimé Jésus en le faisant clouer sur une croix par des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Mais Dieu l'a relevé en le délivrant des douleurs de la mort. En effet, la mort n'avait pas le pouvoir de le garder. Dieu, David a parlé de Jésus en disant « Je voyais sans cesse le Seigneur devant moi. Oui, quand il est près de moi, je ne tombe pas. Alors mon cœur se réjouit et ma bouche chante de joie. Et même dans la tombe, mon cœur reposera plein d'espérance. Non, tu ne m'abandonneras pas dans le monde des morts. Tu ne laisseras pas ton ami fidèle pourrir dans la tombe. Tu m'as montré les chemins qui conduisent à la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. » Pierre ajoute, « Frère, je peux vous le dire très clairement, notre ancêtre David est mort. On l'a enterré et sa tombe est encore chez nous aujourd'hui. Mais David était prophète et il savait que Dieu lui avait fait ce serment. Je mettrai un de tes enfants sur ton siège royal. » David avait prévu que le Christ allait se relever de la mort. En effet, il a dit, « Dieu ne l'abandonnera pas dans le monde des morts, et son corps ne pourrira pas dans la tombe. » Ce Jésus, Dieu l'a relevé de la mort, et nous en sommes tous témoins. Dieu l'a fait monter jusqu'à sa droite, il a reçu du Père l'Esprit Saint promis, et il nous l'a donné. Voilà ce que vous voyez et voilà ce que vous entendez maintenant. David n'est pas monté au ciel et pourtant il a dit, « Le Seigneur déclara à mon maître, viens t'asseoir à ma droite, je vais mettre tes ennemis sous tes pieds. » Tout le peuple d'Israël doit donc le savoir de façon très sûre. Ce Jésus que vous allez clouer sur une croix, Dieu l'a fait, Seigneur et Christ. Amen. Qu'est-ce qui fait Pierre à travers cette explication? Déjà, et c'est une grande vérité qui nous fait bien nous rappeler ces temps dans la foi chrétienne, il n'oppose pas le cœur, ce qu'on peut vivre dans ses émotions, ce qu'on peut ressentir de la part du Saint-Esprit, et ce qui se passe dans la tête, où en tant qu'être humain, on a besoin de comprendre ce qui se passe. Pierre, il prend ça en compte et il l'explique. Il explique avec des mots, il explique avec son discours ce qui se passe parce qu'on n'est pas séparés en tant qu'être humain. On a un cœur, on a des tripes et on a aussi un cerveau qui nous permet de réfléchir et d'essayer de comprendre ce qui se passe. Pierre prend en compte cela et à travers son discours, il va ce que j'ai appelé revisiter toute l'histoire d'Israël pour montrer qu'en Jésus, tout est accompli. Et que c'est l'Esprit de Jésus qui s'est déversé sur les disciples le jour de la Pentecôte. Rien de plus, mais rien de moins non plus. L'Esprit Saint, c'est cette personne qui agit à travers nous pour agir comme Jésus l'aurait fait. Il raconte finalement une partie de sa propre histoire et de l'histoire communautaire. Il doit faire ça avec un auditoire qui sait très bien toute l'histoire qui précède. C'est des frères juifs auxquels il s'adresse et il va les chercher là où ils sont, là avec ce qu'ils comprennent, pour les faire aller pas mal plus loin. Parce que ça bousculait pas mal de leurs certitudes. Ils devaient voir en quoi et surtout en qui Dieu a décidé de parler, c'est-à-dire qu'il a décidé de parler par son Fils Jésus-Christ. Et ça va les toucher personnellement, parce qu'il y en a 3000 qui vont se convertir suite à ce discours. C'est un peu le rêve de tout prédicateur, hein, quand on est un peu narcissique. On se dit, là, claque, ce serait quand même excellent. Mais aussi en tant que peuple de Dieu. Ce n'est pas seulement des histoires personnelles, c'est aussi des histoires communautaires. Et ça, comme pasteur, on aime bien les histoires communautaires. Alors la question que je nous pose ce matin, c'est comment est-ce que je vais revisiter mon histoire personnelle à la lumière de ce que le Saint-Esprit fait dans ma vie. Et comment est-ce que nous allons en communauté revisiter notre histoire communautaire à la lumière de ce que le Saint-Esprit fait dans notre vie de communauté? Parce qu'il y a bien une caractéristique de l'Esprit-Saint, ce sont les déplacements qu'il nous propose, voire qu'il nous impose parfois. Parce que là, je ne sais pas s'ils ont décidé grand-chose, ces disciples, pour recevoir l'Esprit-Saint. Ça leur est, comme on dit, tombé dessus. Et ils n'ont pas eu grand-chose à dire, à faire ou à agir. J'ai parlé de la dernière fois dans ma prédication en parlant d'un texte d'Ézéchiel. Et là, c'est intéressant parce que Pierre, il cite deux fois l'Ancien Testament, une fois avec un prophète, le prophète Joël, et une fois avec un texte des psaumes. Et on voit que c'est ce même esprit qui souffle et qui nous propose, je vous avais proposé trois pistes, un changement de cœur, qui nous propose de nous déplacer parce que c'est un souffle qui se déplace et qui nous offre une multiplication, et j'ai envie de dire une multiplication de vie. Et je crois qu'on retrouve pleinement ces trois éléments dans l'expérience de la Pentecôte. Déplacement avec le souffle, changement de cœur et multiplication à travers ce que produit la prédication de Pierre. Et de nouveau, c'est assez émouvant de voir ces échos dans l'Écriture à des siècles de différence. On sent vraiment, là derrière, que c'est le même Esprit de Dieu qui souffle et qui souffle encore aujourd'hui dans nos cœurs et lorsqu'on médite la parole comme on le fait ce matin. Et comme témoignage pour illustrer ces changements de cœur, ces multiplications aussi qui sont les conséquences, les fruits de l'Esprit finalement, j'avais donné quelques échos, je ne sais pas si vous vous souvenez, du cours Alpha, où notamment... une personne qui disait qu'il avait tout essayé pour changer son cœur, mais le seul qui avait réussi à changer son cœur, c'était l'action de l'Esprit-Saint. Cette puissance qui était là et qui avait permis un changement en 2 ans absolument étonnant. Eh bien, vous savez quoi, la semaine qui vient de se passer, j'ai rencontré plusieurs personnes qui sont en train de se préparer pour leur baptême. Et ces moments, pour moi, ont été juste émouvants. Car j'ai eu le privilège d'être le témoin de l'action de l'Esprit-Saint dans la vie de ces personnes. L'Esprit agit encore aujourd'hui. Je l'ai vu à travers le cours Alpha et je l'ai vu la semaine passée à travers cette magnifique matinée où j'ai rencontré 2 personnes qui ont pu simplement mettre des mots sur ce que l'Esprit de Dieu a fait dans leur vie personnelle. Je ne vous parle pas ce matin de la réalité uniquement d'il y a 2000 ans. C'est bien de se plonger dans les racines. Mais ces racines, elles sont plus vivantes que jamais. Et je discute encore avec quelqu'un au café ce matin et je suis frappé de voir comment l'Esprit parle, même en dehors de nous, de tout ce qu'on pourrait mettre en place. On est là, nous, on est les témoins, on rend témoignage. Mais finalement, l'Esprit de Dieu et son action dépassent largement ce qu'on peut mettre en place et les actions qu'on peut avoir et mettre en place. D'un côté, on pourrait un peu s'en vexer, puis d'un autre, on peut franchement s'en réjouir. Parce que ça nous dépasse aussi largement et ça va au-delà de ce que nous pouvons imaginer et penser. revisiter l'expérience et la présence de l'Esprit-Saint dans ma vie. C'est ce que j'ai fait avec ces personnes qui se préparent au baptême, et c'est ce que je vais continuer encore à faire ces prochains jours. Et c'est finalement ce que je nous encourage à faire, chacune et chacun, ce matin. Parce que normalement, le baptême, on ne le fait qu'une seule fois dans sa vie, en tout cas de manière adulte. Et puis là, on a un petit exercice où on doit donner son témoignage devant tout le monde, ce qui est un petit coup de stress pour les personnes qui sont en train de se préparer au baptême. Et je me rends compte que cet exercice, il est très précieux parce qu'il nous permet, et il permet à ces différents candidats, de regarder en arrière et puis de faire un effort, parce que ça ne vient pas comme ça en claquant des doigts, pour discerner les moments ou les éléments, les expériences qui font que l'Esprit de Dieu a agi dans leur vie. Et puis en gros, c'est un peu un exercice qu'on fait le jour de son baptême, puis après on a une petite tendance un peu à l'oublier. On ne fait plus tellement cet exercice de revisiter ces moments où l'Esprit-Saint a agi dans ma vie. Et en les écoutant, je me suis dit que c'est un peu dommage que nous toutes et tous, en tant que croyants, on pouvait aussi regarder dans le passé, comme Pierre le fait finalement, et discerner en quoi l'Esprit-Saint et comment l'Esprit-Saint agit dans ma vie. Et vous verrez, ça fait du bien. Ça vivifie notre foi. Ce n'est pas simplement un élément qui appartient à d'autres, c'est quelque chose qui m'appartient aussi à moi et qui nous appartient en tant que groupe, en tant que communauté. Pierre nous encourage à ces moments de revisitation et je crois même qu'ils sont essentiels à notre foi. Nous pouvons le faire indépendamment de devoir être ici devant et de donner son témoignage le jour de son baptême. Encourageons-nous à revisiter l'action de Dieu dans nos vies, dans sa propre histoire personnelle et communautaire, car il agit encore aujourd'hui. Le deuxième élément qui nous invite à être revisité, c'est de revisiter l'ensemble des Écritures. Et là, je vous ai donné un petit aperçu avec ces échos que je trouve super intéressants, entre les prophètes, entre l'Évangile, entre maintenant ce texte des Actes des Apôtres. Et je crois que notre histoire communautaire est aussi façonnée par notre lien à la parole, par notre lien à l'Évangile. Et là aussi, quand on ouvre notre Bible, ce n'est pas parce qu'on doit le faire ou bien parce que le pasteur nous a dit de le faire, mais c'est vraiment une manière de se reconnecter à la vie de l'Esprit parce qu'on pense que ces paroles sont inspirées. Alors, ce n'est pas un concept très compliqué à comprendre, l'inspiration, c'est qu'on croit simplement que derrière chacune des paroles de la Bible, il y a un auteur qui a écrit sous l'inspiration de l'Esprit-Saint. Le même Esprit qui s'est révélé à la Pentecôte, on le retrouve dans la parole à des siècles et des siècles d'intervalle. C'est pour ça qu'on y est attaché, c'est pour ça qu'on la médite, c'est pour ça que je la médite avec vous ce matin. Ce n'est pas parce que c'est un livre intéressant, ce n'est pas parce que c'est un livre de sagesse, ce n'est pas parce que c'est un livre qui raconte des belles histoires, c'est parce que c'est un livre qui est inspiré par Dieu, tout simplement. Alors allons aussi en ce jour de Pentecôte revisiter comment le Seigneur parle à travers ses témoins dans la parole. Car c'est là qu'on a nos racines, et ces racines qui sont encore toujours vivantes, parce que je crois que nous sommes une communauté qui désire suivre cette parole et nous en inspirer pour notre vie. Et finalement, c'est l'essentiel du discours de Pierre que j'aborde maintenant, c'est une nécessité de revisiter à travers la Pentecôte ce qui s'est passé à Pâques. Je ne sais pas si ça vous a frappé comme moi, mais les trois quarts du discours de Pierre, c'est quoi? C'est sur le fait que Jésus s'est relevé de la mort. Vous avez remarqué aussi? Il ne parle pas tellement de l'action du Saint-Esprit, de sa puissance, de tout ça. Ça s'est fait à travers la mort et la résurrection de Jésus. Et là, il doit beaucoup l'expliquer parce que ça nous heurte. Et encore mon fils qui me disait hier matin, parce qu'on a médité le texte de la résurrection, c'est eux qui m'ont demandé de pouvoir méditer ça durant le camp cathé. Et puis il me dit, « Papa, moi je suis quand même un peu comme Thomas, c'est pas super évident à croire ce qui s'est passé le jour de la résurrection. Besoin de voir pour croire. » Et je crois que ce n'est pas par hasard non plus que Pierre insiste là-dessus. Et ce n'est pas par hasard que j'insiste aussi là-dessus pour nous en tant que croyants. Rien dans la société va nous permettre de dire « c'est normal ce qui s'est passé ». On va plutôt nous traiter un peu pour des illuminés. Du coup, on essaye de se rabattre sur les choses qui nous paraissent plus palpables, la sagesse qui peut être là, peut-être le développement personnel, peut-être les bons conseils que Jésus peut nous donner. On n'est pas au cœur du problème, là, les amis. Le cœur du problème, c'est de croire à l'action de Jésus, de Dieu qui a relevé son Fils d'entre les morts, parce que la mort n'a pas le dernier mot sur la vie. Et Pierre rappelle que l'action de l'Esprit-Saint, c'est ça et uniquement ça. Ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu ne l'a pas laissé au séjour des morts, mais l'a relevé à la vie. Et c'est pour ça que nous chantons, parce qu'on ne chante pas un inconnu qui est perdu dans les limbes de la mort, on chante un Dieu vivant, on prie un Dieu vivant, on écoute un Dieu vivant, et c'est vraiment le cœur de notre foi, et c'est pour ça que Pierre insiste là-dessus. Oui, la victoire de la vie sur la mort est particulièrement célébrée aussi à la Pentecôte. Ça regarde l'action du Saint-Esprit, cette puissance, dans cette direction-là. Donc ça nous invite, un peu comme je l'ai dit la dernière fois, à accepter cette puissance de Dieu dans ma vie. À ne pas la limiter, cette puissance de Dieu. Et cette puissance de vie sur la mort. Ce n'est pas si évident que ça, hein, à accepter, j'ai remarqué. Parce que quand on est dans une situation un peu compliquée, est-ce que c'est notre premier réflexe de proclamer la vie sur cette situation-là? Est-ce qu'on arrive à prononcer des paroles de vie et non de mort ou de plainte ou de je ne sais pas quoi sur cette situation-là? Ça ne veut pas dire qu'on doit vivre sans regarder les difficultés. Par contre, le regard qu'on porte sur les difficultés, ce sera un regard porteur de vie. Et pour moi, si je dois parler de l'action du Saint-Esprit dans ma vie, c'est que je me dis que chaque pas en direction de la vie manifeste en nous la puissance du Saint-Esprit et sa présence. C'est une manière de ne pas se rendre aux puissances des ténèbres. C'est une manière de ne pas se rendre à la pulsion de mort qui nous habite en tant qu'être humain. C'est une manière de proclamer la vie sans triomphalisme, mais avec conviction et une conviction profonde. La puissance de l'Esprit-Saint dans nos vies, elle se manifeste à ce niveau-là et elle se manifeste de mille et une manières différentes. On n'est pas appelé à rester les bras croisés ou fatalistes face à ce qui nous arrive, mais à proclamer cette puissance de vie parce que simplement, ce Saint-Esprit nous a été donné. La Pentecôte, c'est Dieu qui intervient dans l'histoire des êtres humains encore une fois. Et je trouve magnifique que je puisse prêcher là-dessus avec cette conclusion, avec le chant d'Alice ce matin. Je ne sais pas si vous avez noté ces paroles, c'est elle qui l'a composé, ce chant qu'elle a chanté tout à l'heure. Et elle a dit, « Je veux dire la vérité dans mon histoire. » Et c'est ça que le Saint-Esprit nous invite à faire. Dire la vérité dans mon histoire personnelle. Accepter cette puissance de vie qui est plus forte que la mort. Et je trouve ce clin d'œil juste magnifique. Peut-être un petit clin d'œil du Seigneur, qui sait. Dieu intervient dans l'histoire des êtres humains, encore une fois et encore aujourd'hui. Et nous pouvons dire, avec le psalmiste, avec Pierre, « Non, tu ne m'abandonneras pas dans le monde des morts. Tu ne laisseras pas ton ami fidèle pourrir dans la tombe. Tu m'as montré, Seigneur, les chemins qui conduisent à la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. » Et l'Assemblée dit « Amen. » Je vous invite à la prière. Notre Dieu, merci parce que nous célébrons aujourd'hui ce Dieu qui a vaincu la mort, ce Dieu qui nous donne la vie, cette vie qui nous donne la joie, qui nous donne la paix, qui nous donne tout simplement le mouvement et l'être. Merci parce que nous pouvons sentir cette force en nous. Pas parce que nous avons pris l'abonnement du fitness, mais simplement parce que tu nous as donné ton Esprit-Saint. Tu nous as donné ton Esprit-Saint qui nous donne cette vie, qui manifeste en nous ta vie. Merci pour cela, Seigneur, parce que on essaie d'imaginer si on n'avait pas cette force-là, si on n'avait pas cette puissance dans nos vies, ce à quoi pourrait ressembler notre vie, et on a certainement un peu le vertige. Alors ce matin, nous pouvons nous replacer devant toi, revisiter tous les moments où tu nous as particulièrement secourus, où la puissance de ton esprit nous a particulièrement sauvés de telle ou telle situation. Et merci pour tous ces pas dans la direction de la vie que tu nous donnes de faire. Merci parce que nous sommes ces témoins-là et que tu es à nos côtés pour y être. Tu vois cette table que je vais placer devant nous ce matin, cette table qui nous rappelle ton sacrifice, ta mort à la croix, ta vie qui nous est donnée par ton sang. Permets-nous de prendre ces éléments, que sont le vin, que sont le pain, dans cette perspective de la vie qui est plus forte que la mort, et que cette vie est offerte à chacune, chacun, librement et gratuitement. Que nous puissions nous placer devant toi et ce matin refaire, ou faire pour la première fois, le choix de la vie qui est plus forte que la mort, le choix de Dieu qui est plus fort que tous les autres choix possibles. C'est ce que je te demande dans le nom de Jésus. Amen.